jeudi, 22h minuit.
C'est Radio Manœuvre sur RFM.
L'invité de la deuxième heure vient de pousser la porte du studio et notre invité du jour, c'est Patrick Mahé. Patrick Mahé, il faut le présenter, ça a été le rédacteur en chef de Paris Match. Paris Match est un journal qui fait partie du même groupe que RFM. Vous êtes nos voisins, on se croise souvent, donc on discute. Et donc Patrick Mahé, bonsoir.
Bonsoir, voisin, cousin et ami.
Vous nous sortez la légende de Paris Match aux éditions Plomb, un livre qui revient sur les 75 premières années de ce journal incroyable.
Incroyable, trois quarts de siècle, né le 25 mars 49 déjà, après la guerre, lancé par Jean Prouvot, des grandes signatures tout de suite, Raymond Cartier, Guillaume Anoto, etc. Pas trop de musique au départ, ça viendra plus tard, avec les années 60, quand Daniel Philippaki rachètera le titre en 76. Et là, ce sera une bonne tendance à mes copains.
Alors, on va attaquer tout de suite l'émission en écoutant le Style Council, le groupe de Paul Weller, qui a eu la très bonne idée d'écrire un morceau qui s'appelle
Paris Match.
Allez, c'est quand même la classe quand vous avez Paul Weller qui vous fait un morceau.
Stop.
sur RFM.
C'était le Style Council, The Paris Match. Notre invité de ce soir, c'est Patrick Mahé. Et j'ai envie de lui dire, alors là, c'est un livre où il y a plus le poids des mots que le choc des photos. Parce qu'il n'y a même pas un cahier photo. Avec quelques photos, vous avez tenu à faire du texte. C'est votre vengeance sur les photographes.
Mais non, parce que j'adore les photographes. Et en fait, la photo est leader, souvent. Et naturellement, sans photo, il n'y a pas de sujet. C'est la locomotive des grands sujets. Mais c'est la version poids des mots, comme vous l'avez dit. Viendra certainement un jour la version choc des photos.
Alors moi, quand j'ai rencontré un jour, Mick Jagger m'avait dit, Philippe, tu t'écris peut-être des très bons articles, mais moi, ce que je préfère, c'est les photos qui les illustrent. Ça vous remet à la place tout de suite.
Ben, c'est vrai. Ben, Mick Jagger a été d'ailleurs souvent traité dans Paris Match. Il n'a pas fait beaucoup de couvertures, mais seul en tout cas.
En tout cas, vous avez fait la première couverture sur les Rolling Stones en France en 1966, hein, un an avant Rock et Folk, qui fait sa première couverture Stones en 1967. Vous attaquez très fort l'Angleterre des cheveux longs. En mars 66, il y a quand même une couve où il y a les 5 Stones. Je vais la mettre sur mon post Instagram que tout le monde va voir.
Ouais, c'est vrai que c'est une couve historique puisqu'elle est unique d'abord et qu'elle correspondait en plus à un fait de société qui était les élections en Grande-Bretagne. Et en fait, dans cette Angleterre aux cheveux longs, on retrouve ce qui était véhiculé un peu partout. Mais même en Espagne, le torero vedette, c'était El Cordobés. Et en fait, on disait qu'il était coiffé comme un Beatles. Et donc, quand on fait la couverture des Stones, c'est un phénomène de société autour de cette élection avec un changement de génération. Mais d'ailleurs, les Stones vont faire une petite campagne pour Harold Wilson. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de taxes qui s'est instauré. Ça va expliquer d'ailleurs leur arrivée dans la villa Nellcott.
Ils vont quitter la Grande-Bretagne
pour cette raison-là.
On va écouter les Rolling Stones nous parler de la presse. Ça s'appelait Yesterday's Papers.
Yesterday's papers. Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM.
C'était les Rolling Stones, Yesterday's Papers. Et alors là, on va rentrer un peu dans votre univers à vous, Patrick Mahé. Je rappelle, vous avez été l'ancien rédacteur en chef de Paris Match. Vous sortez La Légende de Paris Match, un livre énorme, hein, avec de plus de 500 pages. Vous racontez la saga de ce journal qui a eu 75 ans cette année. Donc il a survécu à beaucoup d'époques, beaucoup de révolutions. Et vous êtes fermement, vous aimez la country. Parlez-nous de ça. Vous avez choisi Dolly Parton, Loretta Lynn et Tammy Wynette. I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Pourquoi vous voulez nous passer ce morceau ?
D'abord parce que j'ai eu la chance d'aller à Nashville plusieurs fois. J'ai assisté aux Awards de la country music plusieurs fois. que j'ai aimé cette atmosphère avec des gens dont les noms diront pas grand chose aujourd'hui, mais Gene Autry, Roy Acuff, Ernst Tubb, des noms comme ça. Et je me souviens avoir vu Brent Daly d'ailleurs à Nashville, et j'aime beaucoup cette chanson de Tammy Wynette et de Dolly Parton, parce qu'il passe en revue le meilleur des héros de la country music et du rock'n'roll, parce qu'il y a plusieurs versions. La première version est de Tex Ritter, qui en fait se contente de faire passer, qui se contente pas parce que c'est une création, de faire passer les héros de la country music. Mais quand Dolly Parton, Tammy Wynette reprennent cette chanson à leur compte plus tard, ils y ajoutent les héros du rock'n'roll qui ont disparu. Et du coup, ça fait une chaîne entre les générations et entre les genres musicaux, depuis les Hillbilly Cats jusqu'aux chanteurs de country et du rock'n'roll.
Alors, dans un monde difficile, hein, où il se passe des événements incroyables, que ce soit climatique, des épidémies, du terrorisme, la country, ça semble un peu la valeur refuge en ce moment. Beyoncé vient de faire un album country, tout le monde met des chapeaux de cow-boy. Vous pensez qu'on peut avoir une vague country?
Oui, c'est intéressant l'histoire des chapeaux de cow-boy, parce que hier j'ai vu sur une chaîne d'infos un gars qui était interviewé sur un fait de société d'aujourd'hui, qui était une sorte de sociologue savant, on va dire un sachant, et il avait un chapeau de cow-boy. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce décalage? Il est en train de nous parler des faits de société d'aujourd'hui, il a un chapeau de cow-boy, il se croit à Nashville ou quoi? Et en fait, ça correspond à ce que vous venez de dire. Oui, c'est une valeur refuge.
Et il y a la danse country. Dans toute la campagne française, le week-end, il y a des festivals de danse country.
Absolument. Alors bon, chez nous, en Bretagne, vous savez que j'habite en Bretagne, j'habite à Vin dans le Morbihan, la danse country prend également dans la ruralité, mais elle est quand même concurrencée par les festounos traditionnels hein, de danse bretonne. Il y a encore la musique de Alan Stivell, de Dan Arbraz et les chansons de Glenmore. Mais vous avez raison, dans la ruralité partout, la danse country, qu'on ne voyait en fait qu'à Disneyland Paris ou Billy Bob's,
oui.
En fait, avec Long Chris parfois qui prenait sa guitare, eh bien, ça fait école actuellement.
Allez, on va écouter I Dreamed of a Hillbilly Heaven, le choix de Patrick Mahé dans Radio Manœuvre.
The old curtain lifted and there on stage stood who else but Roy Acuff and Tex Ritter. They said, well, how you doing? Come on in here. I know there's some folks you want to see. Over there's our newest member, your old friend Conway Twitty. Say hello, darling. And there's gentleman Jim Reeves singing with Heaven's Choir. Roger Miller, he just got here. He's making everybody laugh. Of course, you know Roy Orbison can sing just as high as anybody here. And Ernest Tubb can sing as low. And Patsy Cline, well, I bet she's the best singing angel here. And Dottie West is probably the prettiest. There's the old pea picker Ernie Ford, Jimmy Rogers, George Morgan, Hank Williams, and the wondering boy Webb Pierce. The old honky-tonker himself, Lefty Frizzell. My goodness, what a group. And would you just listen to Mother Maybelle over there picking the wildwood flower with the angel band? You know, I personally think she's just about God's favorite. And Marty Robbins, well, he's still getting more encores than anybody else up here, just like he used to down on Earth. Yeah, well, there's Elvis. They still call him the king, but we know they're not talking about the real king up here. I said, well, who do you think might be showing up, say, within the next 40, 50, 60 years? They handed me a big tally book, and in it I saw names like Johnny Cash, George Jones, Merle Haggard, Don Gibson, Mel Tillis, Farron Young, Kitty Wells, some of the newer ones like Vince Gill and Garth Brooks. Of course, they talked about Minnie Pearl, the Judds, Tanya Tucker, Reba McEntire, Hank Jr., oh, of course, Buck Owens, Roy Rogers, Gene Autry, Randy Travis, and Willie Nelson. There's old Chet.
I said, well, where's Porter Wagoner's name? Oh, there it is. And then there was Loretta Lynn and Tammy Wynette and Dolly Parton. That's when I woke up.
I dreamed I was back in hillbilly heaven. Oh, what a beautiful sight. And I met all the stars in hillbilly heaven. Oh, what a star-spangled night.
Tous les jeudis, 22h minuit.
C'est Radio Manœuvre sur RFM.
Voilà, c'était un peu de country avec Dolly Parton, Loretta Lynn et Tammy Wynette, le choix de Patrick May et l'ancien rédacteur en chef de Paris Match. Vous êtes resté hyper amis, là vous êtes parti en retraite. Vous avez fait bien plus que votre temps.
Oui, j'avais été rappelé après les numéros hors, enfin pour les numéros hors série des voilà. 70 ans.
Oui.
Et nous fêtons cette semaine les 75 ans. C'est quand même formidable. Donc au fil de la construction des numéros hors série, où il y a eu un numéro spécial, Rolling Stones d'ailleurs, je vous le rappelle, que vous connaissez et qui devient un petit collector quelque part, parce que ce sont des tirages quand même à 20 000 et 25 000 exemplaires. Et il y a eu deux très beaux Johnny et pas mal de choses comme ça. Et au fil de la construction des numéro, s'est imposé un moment le choix de prendre la direction du journal. Et Arnaud Lagardin me l'a proposé avec Constance Binquet. C'était tout à fait inattendu, mais proposé par Image, ça ne se refuse pas.
Alors, est-ce que Elvis Presley a fait la couverture de Match ?
Absolument.
Ah oui ?
Mais il ne l'a faite qu'une fois.
Ah bon ?
Il l'a faite avec Priscilla et Lisa Marie.
Mais oui, je me souviens de cette photo.
Alors, c'était d'ailleurs, je crois même savoir que c'était pour le numéro 1000 du journal. Il ne l'a pas fait à l'occasion de son décès, ça ne correspondait pas à un bouclage. Quelquefois, il suffit que l'actualité chasse soit chassée par quelque chose d'autre. Priscilla ne l'a pas faite, mais Lisa Marie. Malheureusement pour elle, la fête, bon, dans des conditions intéressantes, quand elle a eu cette liaison avec Michael Jackson, donc c'était de l'entertainment. Mais quand elle est décédée, on lui a offert, à son décès, la couverture du numéro international, de l'édition internationale du journal.
Vous avez choisi un morceau d'Elvis Presley, In the Ghetto. Vous êtes un fan de la première heure.
Ben, c'est-à-dire que je considère que In the Ghetto est une chanson à message, justement. Et il n'y a pas que Bob Dylan qui était un chanteur à message. Et ben, Elvis avait été frappé par la mort du pasteur Luther King. Il avait été très très frappé, d'autant plus que ça s'était passé à Memphis, dans sa ville. Mais le colonel Parker lui disait toujours « Tiens-toi à l'écart de ces trucs-là, ne parle pas de ça en conférence de presse, c'est pas ton job, c'est pas ton truc. » Et In the Ghetto répondait en fait à sa frustration à lui-même de ne pas avoir pu s'exprimer sur cette tragédie. Et en même temps, il passait un message ferme aux familles des petits voyous de Chicago ou d'ailleurs, en leur disant « Mais gardez vos gamins, faites attention, surveillez-les. » C'était impressionnant en fait. Donc il y a un message dedans, dans cette chanson, que je trouve intéressant.
Ah, c'est sympa. C'est une jolie introduction. On va écouter tout de suite Elvis Presley, In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Radio Manœuvre, uniquement sur RFM.
C'était Elvis Presley in the Ghetto. Alors, il y a un personnage, il y a un rocker qui est le recordman des couves de Paris Match. Ça tombe bien, on va parler de lui, c'est Johnny Hallyday. C'était votre copain ou... C'était devenu votre copain?
Comme le vôtre, Philippe. Pas comme le vôtre, oui, bien sûr, 85 couvertures. Avec simplement une couverture manquée quand même, et là il m'en a énormément voulu pendant un certain temps, hein, parce que Johnny avait quand même pas la fâcherie très très longue. Hein. La couverture qu'il a manquée, c'est tout simplement celle de son mariage avec Laetitia. En fait, quand il se marie avec Laetitia, nous on est là, on fait le reportage, les photos, tout va bien. Et le mardi du bouclage sur le mur, au moment où on va faire partir le journal à l'imprimerie, Didier Rapaud, du service photo de numéro 2, arrive avec une dépêche et l'attend à Roger Théron, directeur général de la rédaction, qui lit la dépêche, qui dit « Oh là là, eh bien je crois qu'on va laisser Johnny à gala ». En fait, c'était la fille de Jacques Chirac qui venait d'accoucher. Et du coup, l'événement pour Roger était plus important que le mariage de Johnny avec Laetitia, couvert par tout le monde quelque part. Oui. Et Johnny était furibard. On avait un envoyé spécial où il chantait à Toulouse le lendemain quand même. Hein. C'était Gilles Lotte qui était venu mon messager pour lui annoncer qu'il n'avait pas la couverture.
Ouh là là, c'est
horrible. Alors là, 3 ou 4 heures du matin, j'ai reçu le message que nous connaissons bien. Allô, je te dérange? Non. Va te faire boire, etc. Et ça a duré je ne sais combien de temps. Et avec cette phrase subliminale, tu m'as fait rater mon mariage. Laetitia a quand même fait 22 couvertures avec Johnny. Hein.
Oui, quand même, hein, on les a bien reconnus. Vous avez choisi un morceau avec Carl Perkins. Carl Perkins et j'adore. Johnny, c'était une grosse amitié. Hein.
Ah, vraiment, vraiment très forte. Et puis Carl Perkins, c'est un monument. D'abord,
il a écrit Blue Suede Shoes.
Blue Suede Shoes. Et souvenez-vous, et vous le savez très bien, Philippe, il a eu ce très grave accident de voiture avec son frère en revenant de New York. Et cette chanson magnifique, comme il ne pouvait plus chanter, il était hospitalisé, ça a duré des mois. Elvis Presley lui avait fait le cadeau de la reprendre et d'en faire un tube, ce qui lui a permis d'avoir des droits d'auteur phénoménaux pendant longtemps.
Pour payer ses hôpitaux.
Pour payer beaucoup de choses, surtout aux États-Unis. C'est pas la même sécurité sociale. Et donc, avec Johnny, ils sont devenus très très amis. Et une petite anecdote, juste comme ça, parce que me fait le plaisir de le raconter.
Allez.
Un jour, Carl Perkins vient à Paris. Il a un petit contrat au Rock'n'Roll Café.
Sur les Champs-Élysées.
Johnny est à Saint-Tropez, à la Lorada, chez lui. A priori, je crois qu'il s'ennuyait pas mal à faire des ronds dans l'eau dans sa piscine. Donc je lui passe un coup de téléphone et je l'appelle. Je lui dis, dis donc Johnny, Carl Perkins est à Paris demain soir. Tu ne crois pas que ça serait bien que tu viennes nous rejoindre? Et il me dit, tu sais à quelle heure il y a un avion? Le lendemain, je vais le chercher à Orly et on débarque dans l'après-midi, dans la soirée, au Rock'n'Roll Café, où Carl Perkins l'attend. Ils font un bras de fer, on fait des photos, ils font un bras de fer, il est en cuir noir, il y a les Desperados avec lui, et là, il fait un bœuf avec Carl Perkins sur Blue Suede Shoes.
Oh là 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 là. Allez, on l'écoute, Carl Perkins, Johnny Hallyday, Blue Suede Shoes.
Well, it's one for the money, two for the show. Later, get ready, and I go, cat, go, don't you? Devil, my blue suede shoes. You can do anything.
is you. Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do all the things that you wanna do.
Yeah.
Only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes.
Yeah.
Well, you can do anything, you step on my blue suede shoes. Car, drink my liquor from an old fruit jar.
Do anything that you wanna do, but hop on, baby, they'll offer them shoes. Don't
step on my blue suede shoes.
Yeah, you can do anything, but they offer my blue suede shoes.
Come on, let's knock it again, baby. So one for the money, two for the show. I treat her good, ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, but they are for my blue suede shoes. Blue, 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 blue suede shoes. A blue, blue, a blue suede shoes, baby. A blue, blue, a blue suede shoes, baby. Blue, blue, a blue suede shoes. Well, you can do anything, but they are for my blue suede shoes.
Tous les jeudis, 22h minuit.
C'est Radio Manœuvre sur RFM.
Voilà, c'était Carl Perkins et Johnny Hallyday, ensemble Blue Suede Shoes. Vous nous avez choisi un morceau de Tony Joe White. Ça, c'est votre jardin secret, c'est la musique que vous aimez.
Bah, c'est Paul Saladini, bien sûr, oui, hein, bien qui sûr. Est une chanson de Louisiane.
Bon, alors Tony Joe, lui, jamais question de le mettre en couverture de Paris Match.
Non, non.
Vous n'avez même pas essayé.
Non, mais sa fille aurait pu, Michel. Michel White aurait pu, d'autant plus qu'elle a eu un petit béguin pour Johnny Hallyday, ce que vous n'ignorez pas.
Oui.
Mais effectivement.
Mais Tony Joe n'a pas approuvé. Il a emmené Johnny à l'aéroport directement. Il n'a pas voulu savoir ce qui allait se passer.
Ah, il n'a pas voulu du tout. Puis il avait ce vieil état d'esprit, bien de Louisiane, le mec des bayous, tout ça. On touche pas à ma famille. Il tient une famille de 7 ou 8 enfants, je sais plus combien. Et voilà. Mais c'est vrai que Tony Joe White, c'est un monument. Pas forcément connu des grands de la génération d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour qu'on redécouvre ce morceau Pork Saladani qui est tellement rythmé surtout.
Ah bien sûr, mais je pense que les auditeurs de Radio Manœuvre vont être très très contents.
Ah bah c'est sûr. Alors là.
Allez, Tony Joe White dans Radio Manœuvre, le choix de Patrick Mahé.
Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby call it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. Mean vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and get home in a tote sack, Coke salad, Annie. The gator's got your granny, chomp, chomp, chomp. And everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on tending. A Richard spiteful, straight razor tote moment. Lord, I'm just picking my mess up.
Intersport, promotivé comme jamais.
La team, on porte quoi pour avoir déjà un pied en été pendant les ponts de mai?
Ah, la petite basket en toile Levi's à moins de 30 euros.
Oh, c'est bon ça!
Jusqu'au 12 mai chez Intersport, c'est plus de style et d'économie. Les chaussures mixtes en toile Levi's Harrison, disponibles en blanc, bleu marine et rose, sont à 29,99€ au lieu de 44,99€, soit 33% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Sock a little poke salad to me. You know I need me a mess of it.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM.
C'était Tony Joe White, Polk Salad, Annie. Dites, à un moment, Paris Match, c'est important parce que c'est vous qui signalez à tout le monde ce monsieur est une star, cette dame est en train d'arriver. C'est un rôle terrible d'être rédacteur en chef. Il doit y avoir quand même beaucoup de pression, non? Parce que moi, j'ai été rédacteur chef d'un petit journal de rock. Il y avait de la pression.
Petit journal de rock auquel nous étions tous fidèles, quand même.
Oui, c'est...
J'en ai encore une belle collection.
Merci. Mais je veux dire, là, Paris Match, il doit y avoir une pression hebdomadaire autour de la couverture. Non, ça bagarre ferme. Parce qu'il y a qui veut parler de son film, il y a un nouveau comique qui arrive, il y a ceci. Comment on fait?
Surtout, il n'y a pas que cela, parce que ce n'est pas un journal de divertissement. C'est un journal qui est ouvert au divertissement, parce que la couverture est en effet une porte d'entrée. Or, le journal peut très bien comporter des sujets d'une gravité extrême.
Ah bah oui, bien sûr, intérieur. Vous avez toutes les catastrophes, les guerres,
les grands reportages,
les avions
de guerre,
qui tombent.
Et tout ça, mais la porte d'entrée en général est plus légère de façon à ce qu'il y ait un consensus qui se fasse quand les gens le voient dans un kiosque. On n'affiche pas du drame en permanence.
Alors, il y a quand même eu une époque, vous aviez des personnages, quand on les mettait en couverture, il y avait une explosion des ventes. Je pense à Stéphanie de Monaco à l'époque
Royals,
de l'ouragan, Michael Jackson, Madonna, ça a été des grandes locomotives, mais aussi Céline Dion.
Beaucoup
de choses. Et Michel Sardou, non?
Sardou, naturellement, bien sûr. Et pas mal, Sardou. Qui encore? Je pense que dans les... D'abord Brigitte Bardot, je dirais. Faut pas oublier Brigitte avant tout. Alain Delon et Belmondo. Mais Bardot, pour moi, ça reste la personnalité la plus emblématique des années des 30 glorieuses, entre guillemets, de Paris Match. Pour moi. On l'appelait la petite fiancée de Paris Match.
Ah ouais.
Et un jour, elle nous a écrit une petite lettre charmante. D'ailleurs, c'était pour un anniversaire. C'était les 60 ans ou 70 ans. Elle fait un petit mot pour vous souhaiter votre anniversaire de la part de l'ex-petite fiancée de Paris Match, devenue la grand-mère favorite de Paris Match. C'était adorable, Brigitte.
Génial. Il faudrait presque qu'on passe un disque d'elle.
Oh, ce serait charmant.
Allez, Aubert, les Davidson. Allez.
Oh, ça va bien.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je me
quel était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terri blanche.
Un morceau de Serge Gainsbourg, lui aussi, il a fait un certain nombre de couvertures. De...
Oui.
Alors, moi, je
quand ils se sont séparés, parce que
voilà, j'étais copain avec Serge à l'époque. Ouais. Alors, il menaçait. Il y avait une épée de Damoclès au-dessus de Jane Birkin. Il disait, je vais appeler Paris Match, moi, quand il était vraiment pas content qu'elle s'en aille avec Jacques Doyon.
Ah,
et
oui.
C'est lui qui a appelé Paris Match, c'est pas elle.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est lui qui vous l'a annoncé à son heure, à son moment.
Absolument.
Il y a beaucoup de gens qui utilisent Paris Match comme ça. Moi, j'ai eu le cas, il y a un célèbre chanteur français qui s'était bagarré avec son agent et qui a menacé de faire des révélations dans Match. Du coup, l'agent est abattu en marche arrière.
J'ai compris de qui vous parliez, mais on n'avait pas de nom à cette antenne.
Non, pas de nom.
Mais je vois très bien de qui vous parlez.
Non, mais voyez, bon.
Et je connais bien l'agent également.
Alors, vous avez eu le sentiment d'être utilisé parfois par des.
Oh, ça peut arriver, mais vous savez, ça.
Mais le rédac chef doit veiller à ce que ça n'arrive pas.
Ça n'arrive pas parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité de publier. C'est pas le tout d'avoir les documents, c'est pas le tout de réussir. Et souvent, ce sont des exploits, des photos inédites. Mais après, il y a la responsabilité de publier. Et là, ça, c'est un arbitrage à faire. Et souvent, en général, quand on se sent manipulé, il y a une petite musique désagréable qui fait que on hésite et parfois on recule.
Oh, wow. Bon, là, je sais quel morceau on va mettre. On va mettre Guns N' Roses, Get in the Ring, Motherfucker, dans lequel Axl Rose attaque le rédacteur en chef d'un journal rock Spin. Il lui dit, t'es qu'un connard, un fils à papa, ce journal, c'est le pognon de ton père. Ton père, il a gagné son pognon en faisant des magazines de cul. Viens te battre sur scène, viens te battre en boxe avec moi si c'est t'as bon les ça. Couilles. Bon, on peut écouter ça quand
ah,
même.
Ah oui, bien sûr.
Hein, dans une émission consacrée à la presse.
Just like you, I got my vices. I got a thought that would be nice. I'd like a
C'était Guns N' Roses, Get in the Ring. Un morceau, bon, beaucoup de gens disent qu'ils ne le feraient plus aujourd'hui. C'est sorti dans les années 90.
Il y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Hein.
Bon, on a parlé des people, on a parlé de l'utilisation de Paris Match par les people, on a parlé des couvertures qui marchent, on a parlé de Johnny Hallyday et Match. On n'a pas évoqué Paul Naref. Paul Naref, c'est un personnage.
Difficile, Paul Naref.
Voilà, il a cette réputation d'être difficile. Non, mais
extrêmement
fait...
intéressant, et vous le connaissez par cœur, hein, évidemment. Mais les rendez-vous avec Paul Naref ne sont jamais garantis de succès. Il peut vous faire venir à Los Angeles, faire déplacer des montagnes, notamment
installer
un piano dans le désert, voilà, et puis se dérober au moment de la séance photo et ne réapparaître que deux jours après. Et résultat, ça prend un temps fou de monter ces reportages-là. Mais en même temps, c'est ça aussi le monde des artistes. Il faut savoir accepter. Nous, on prend nos risques. Paul Naref donne un rendez-vous, on sait que ça va pas être simple, mais on le fait quand même.
Et les acteurs de cinéma, est-ce qu'ils sont plus... Parce que Vous, la gloire de Paris Match, ça a aussi été Alain Delon, et Jean-Paul Belmondo, et voir les deux ensemble.
Vous avez vu la semaine d'avant, il y a quelques semaines, c'était leur fils.
Ça vous plaît tellement que vous nous mettez les fils.
Mais moi, j'ai adoré cette photo parce que cette photo, elle a une histoire. D'abord, la photo des parents, c'est-à-dire Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, correspond à un événement. C'est quand, en 94, ils sont boycottés, on peut dire le mot,
par le Festival de Cannes.
Et à l'époque, Michel Marisi, qui est à Télé 7 jours, mais qui travaille beaucoup avec Delon, sur une idée de Belmondo, vont sauter ensemble sur un trampoline, d'après une idée qui vient d'un grand photographe américain, Philippe Halsman, lequel avait fait sauter déjà sur un trampoline Marilyn Monroe, et même François Mauriac, il faut le savoir, et même François Mauriac. Et de cette idée-là, adaptée à la France, ça a donné cette couverture merveilleuse Cannes, on n'en a rien à cirer, disaient Delon et Belmondo en chœur. Et la semaine d'avant, il y a deux semaines maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les enfants qui réitèrent le geste de leur père. Je trouve ça formidable. C'est la chaîne des générations.
Waouh, c'est bien expliqué. Je vous rappelle que notre invité, c'est quelqu'un de très spécial. C'est Patrick Mahé, qui a été pendant 25 ans le rédacteur en chef de Paris Match. Et là, il vient de sortir un livre énorme qui s'appelle « La légende de Paris Match ». On a hâte de le lire. Ça doit être bourré d'anecdotes. Mais là, tout de suite, on va écouter FFF, hein, le groupe de Yarol Poupeau et Marco Prince. Et il nous interprète un morceau qui s'appelle « Magazine » avec un S.
T'as l'irrévérence jeune fille de France, à Baby Jane tu vas saisir toutes tes chances. Un monde à toi, versé d'insouciance, de défense, d'éclat et d'exubérance. Divine demoiselle, diva de vinon, divin débat de l'union, ça c'est l'indécence qui te met dans tous tes états déclinants. Des regards de moi qui n'échapperont bouche en rouge de toi. Le grand méchant du dégoût, c'est loin que Baby Jane ne connaît pas. Elle déambule, vole, débile dans la forêt, c'est immobile, fasciné par les chants des sirènes et la larmeuse de joie. Elle sait.
Radio Manœuvre sur RFM.
C'était FFF Magazine. Nous sommes toujours avec Patrick Mahé. Patrick, est-ce que vous avez un regret, une couverture que vous n'avez pas pu faire, que vous auriez aimé faire?
D'abord, j'ai pas fait celle du mariage de Johnny et Laetitia. Je vous l'ai raconté.
Bon, Laetitia, je vous l'ai raconté après.
Je pense qu'on aurait pu travailler peut-être mieux avec Elvis un moment, quand dans les années 70, il était au moment de Las Vegas, je parle de Las Vegas. Parce que son comeback était tellement fabuleux, le comeback spécial d'abord oui. qu'on connaît et qu'il a amené après à Las Vegas. Et je trouve que cette période-là a été sous-exploitée.
Et puis vous étiez un des rares journaux aux Français qui auraient eu le budget pour envoyer. Parce qu'à l'époque, rock et folk, c'était difficile de dire on va aller à Las Vegas voir Elvis Presley. La réponse, c'était non.
Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, ça, pour moi, c'est un regret musical important, et pas que musical, parce que voir Elvis en confidence dans ces années-là, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux.
Et aussi, on écoutait Jane Vincent, qui a été décrit comme le double noir et maléfique de Elvis Presley à l'époque par un journaliste. Et vous avez choisi une chanson qui s'appelle Betty.
On l'appelait le diable boiteux. Jane Vincent, parce qu'il a eu son accident avec Eddie Cochran.
Oui, il a eu un accident de voiture. Ouais. Déjà, il a eu un accident de moto. Où il a eu sa jambe brisée. Et puis, il y a eu l'accident de taxi où Eddie Cochran est mort.
En 62.
C'était vraiment des héros absolus pour les jeunes Français.
Alors, moi, j'aime beaucoup cette chanson dont vous parlez, Baby Blue, parce que d'abord, il y a cette voix un peu pathétique de Gene Vincent. On a l'impression qu'il appelle la miséricorde ou quelque chose, toujours, qu'il déifie ses chansons. Et surtout, à l'intérieur de cette chanson, il y a un solo de guitare que j'adore, de Cliff Gallop.
Ah oui, Galloping Cliff Gallop, hein, comme l'appelaient les Américains, le Cliff Gallop, le galopeur, l'homme qui arpentait le manche plus vite que son ombre. Allez, on l'écoute, c'est Baby Blue.
Baby Blue, que les Chaussettes Noires, d'ailleurs, vont chanter plus tard, sous le nom de Betty.
Sur RFM.
Jane Vincent, Baby Blue, c'était le choix de Patrick Mahé. Patrick, cette heure touche à sa fin. Et alors,
non, pas déjà.
Mais si. Mais si,
on en fait une autre alors.
On en fera une, mais là, celle-là, elle touche à sa fin. Et je me dis, vous nous avez choisi Édith Piaf en morceau final, l'hymne à l'amour. Ça veut dire quoi? Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas de chanteuse de ce calibre? C'est un regret éternel? De la France?
Édith Piaf, c'est une partie de l'âme de la France, c'est indéniable. Mais surtout, cette chanson me trouble toujours énormément. D'abord, j'ai écrit un livre sur Piaf et Cerdan avec Dominique Grimaud, il y a longtemps. Et curieusement, quand on se rend compte, on ne se voit pas souvent, Dominique et moi, c'est instantané, on parle d'Edith et de Marcel. C'est très étonnant. On est habité par cette histoire. Et de plus, Marcel Cerdan a fait la photo de couverture du numéro 3 de l'histoire de Paris Match, en 1949, peu de temps avant sa mort. Et enfin, donc, cet hymne à l'amour, il faut savoir qu'elle en a composé les paroles, elle les a écrites à New York 14 jours avant la mort de Marcel Cerdan. Et cette prémonition, effectivement, peut nous habiter. C'est pour ça que, évidemment, je garde pour Édith Piaf un amour éternel. Et puis ça m'amène à une autre anecdote. Il y a quelque temps, j'étais avec Jean d'Ormesson. Il était venu à Vannes, au Salon du Livre de Vannes, et on avait parlé avec lui, on avait dîné avec lui. Et pendant le dîner, je ne sais pas comment c'est venu, il fait « La pire des choses qui peut vous arriver, c'est de mourir la même semaine qu'une femme comme Édith Piaf. Regardez ce qui est arrivé à Cocteau. Il n'a pas eu la couverture de Paris Match. Et lui, Jean d'Ormesson, le pauvre, meurt la même semaine que Johnny Hallyday.
Et du
coup, mais qu'a fait Paris Match ?
Allez-y.
Et bien Paris Match.
Deux couvertures,
deux numéros de la même semaine. Et l'année de la mort de Johnny et de d'Ormesson, c'est la seule année dans l'histoire de Paris Match où il y aura eu 53 numéros sur 52 semaines.
Waouh ! Mais merci pour cette anecdote incroyable. Allez, on écoute tout de suite Édith Piaf, l'hymne à l'amour, le choix de Patrick Mahé dans Radio Manœuvre.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, de ma bande, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se...
C'est Radio Manœuvre sur RFM.
C'était Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Ainsi s'achève cette émission. Patrick, merci d'être venu.
Merci Philippe.